sixième séquence pour comprendre et débattre sur le thème de l'éducation populaire, une série d'émissions proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Alors la semaine dernière, on a parlé ensemble des origines de l'éducation populaire, et notamment du texte fondateur de Condorcet dans ce domaine. Donc c'est un texte théorique, mais qui n'a pas vu, Paul, son application au moment de la Révolution française.
Tout à fait. On peut dire qu'en gros, Condorcet propose un projet de société, un projet culturel autour des droits de l'homme. Et la Révolution française va pas organiser ça. Le texte de Condorcet sort en 1792, cette année-là, le Parlement vote la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier, c'est la loi qui va interdire aux ouvriers de s'organiser. 1789 repose sur les droits de l'homme et tout au cours du 19e siècle, les gouvernements successifs vont favoriser la concentration des moyens de production dans les mains de cette bourgeoisie naissante qui ne trouvait pas sa place sous l'ancien régime. Le droit de vote pour lequel il fallait former les ouvriers, il reste lié à ceux qui payent l'impôt. On n'a plus besoin de former les ouvriers puisque c'est que le vote, c'est le vote censitaire qui existe. Je l'avais expliqué dans une séance précédente. Il faudra attendre la révolution de 1848 pour que le droit de vote à tout le monde soit accordé. Et le 19e siècle, c'est pour la majorité des gens la misère telle que Zola l'a décrite. C'est-à-dire que l'idéal révolutionnaire a vite disparu dans les faits, quoi.
Alors, justement, dans la réalité, comment naît l'éducation populaire? Comment ça se met en place, tout ça?
On peut dire que c'est par rapport à ces conditions de vie misérable que va progressivement se construire l'éducation populaire. Concrètement, pour les ouvriers, les problèmes qui se posent, c'est un problème de survie. Si ils ont un accident du travail, il n'y a plus de revenus dans la famille, ils ne peuvent plus vivre. Quand ils ne sont plus en capacité de travailler, ils n'ont plus la possibilité de vivre. Et ils vont s'organiser, ils vont apprendre comment à faire pour vivre en société à travers les mutuelles. Ils vont s'organiser pour essayer de dire, mais si entre nous on essaye de produire, est-ce qu'on n'arrivera pas à s'en sortir mieux que de chercher à vendre notre force de travail? Et ça va être la mise en place des coopératives. Ils vont se dire, si individuellement on reste seul face au patron, on ne pourra pas s'en sortir. Et ça va être la création des organisations syndicales. Et il va y avoir toute cette revendication qu'il va falloir un siècle pour qu'elle débouche, pour avoir le droit de s'organiser et faire disparaître cette loi, le Chapelier, qui les enferme dans un rapport individuel où les forces sont complètement inégales. Donc, tout le combat du mouvement ouvrier du 19e siècle, ça va être comment faire pour échapper à ces conditions de vie misérables. Et ça va être tout un apprentissage d'une nouvelle culture. Ce processus d'apprentissage, l'éducation populaire va être ce processus d'apprentissage. Comment le peuple apprend, par rapport aux situations qui lui posent problème, à dépasser ces situations. À cette époque-là, l'éducation populaire existe sans qu'elle soit théorisée. C'est une pratique.
Alors on peut imaginer que ça ne s'est pas fait comme ça facilement, qu'il y a eu pas mal de résistance avec notamment certaines couches sociales qui n'avaient pas tellement intérêt à ce qui est comme ça une mise en place d'une organisation collective.
Effectivement, cette organisation, cet apprentissage va se faire dans une lutte. Et ça va être toute la lutte du 19e siècle pour permettre à la classe ouvrière de réussir à avoir sa place dans la société ou pour qu'il soit reconnu comme individu. Par rapport à ça, j'ai une phrase pour illustrer cette lutte, c'est de Guizot. Guizot a été ministre de l'instruction publique. Et s'il y en a certains qui se rappellent de leur cours d'école, peut-être que de Guizot, ils ont entendu dire que c'était le ministre qui avait mis en place une loi en 1933 pour lutter contre l'illettrisme. C'est-à-dire que c'est un ministre progressiste. En 1847, je cite, « L'invasion des classes pauvres par l'instruction est un élément qui doit miner la société dans ses fondements. » C'est-à-dire que ce même ministre qui avait mis en place cette loi dit « Attention, il ne faut pas que les classes pauvres en masse en viennent à l'instruction parce que c'est un danger pour l'ordre social. » Vous voyez comment on va être vraiment dans une lutte et une lutte culturelle. Quelle société veut-on et quels moyens pour y arriver ?
Paul, est-ce qu'on peut peut-être annoncer le programme de la prochaine séquence, donc la semaine prochaine ?
Alors, la semaine prochaine, on verra un des premiers combats organisés et identifiés comme tels de l'éducation populaire, le combat pour l'instruction.
Quand vous parlez d'instruction, c'est de l'école pour tous, c'est ça ?
Ça va être la bataille pour l'école, oui.
Donc rendez-vous mardi prochain dans Info 30 à 7h30. Midi 30 et 18h30. Et puis je signale à nouveau que ces émissions sont aussi à écouter sur internet, sur le site de la radio www.radiopfm.com.